Et vous vous réveillez avec Bernard Poiret. L'information, Lénaïque Monnier, Bernard Poiret.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de ce journal, France-Brésil, c'est ce soir et c'est du foot féminin au Mondial.
Huitième de finale de Coupe du Monde au Havre, une ville qui vit depuis des années à l'heure du Brésil. Reportage dans ce journal. C'est la ruée dans les magasins pour trouver les derniers ventilos encore en rayon. Les Français se préparent comme ils le peuvent à la canicule. Et puis des amplis qui crachent des décibels à gogo. En fin de journal, on vous emmène au Hellfest, le festival du métal hurlant.
Europe 1. France-Brésil, ça rappelle plein de bons souvenirs à ceux qui étaient en âge, en 98 bien sûr, et on espère que ce sera encore le cas ce soir.
Avec ce huitième de finale de Coupe du Monde ce soir, le match se joue au Havre, c'est une ville historiquement et commercialement très liée au Brésil. En témoigne aussi cet immense volcan blanc, ce yaourt, me disiez-vous, érigé par Oscar Niemeyer qui domine la ville. Autant dire que le match de ce soir se déroulera dans une atmosphère assez extraordinaire. Simon Rubin s'est baladé dans les rues.
Marchez 5 minutes dans le centre-ville du Havre et vous verrez un peu partout les drapeaux français accrochés aux vitrines, les enfants, garçons et filles, maillots des bleus sur le dos. Pas de doute ici, on prépare activement le match de ce soir à la terrasse d'un café qui donne sur les docks. Tout le monde parle foot et chacun y va de son pronostic.
Ouais, ils vont gagner contre le Brésil, et carrément, il n'y aura pas de surprise.
Vous serez au stade ou pas ?
Non, justement, j'ai pas pu avoir de place, malheureusement. Mais je serai devant la télé.
On va être provocateur, on va dire 1 et 2 et 3-0.
À quelques centaines de mètres de là, sur la plage, Lydia est venue jouer au foot avec sa fille. Elle est brésilienne, installée au Havre depuis quelques années. Un pied dans chaque camp, comme ça au moins, elle est tranquille.
Je pense que ça va être un bon match, mais ça va, c'est bien. Si la France gagne aussi pour moi, c'est bien aussi. Ma fille, elle supporte la France presque plus que le Brésil.
Et ce dont on se rend compte ici, au-delà du match de ce soir, c'est bien de l'effet Coupe du Monde sur cette ville qui fait le plein de touristes à l'occasion de la compétition. Stéphane, à vrai pure souche, n'avait jamais vu ça.
Voir des étrangers un peu partout au Havre, c'est vivant. En plus, il y a le soleil. C'est très très bien au niveau touristique, mais même au niveau de l'image de la ville, c'est très très bien pour le foot français et le foot féminin surtout.
Ce soir, le stade sera évidemment comble. On attend 25 000 spectateurs. Le Havre, Simon Rubin, Europe 1.
France-Brésil, ce soir donc, à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, prise d'antenne dès 20h.
Les Français, on l'entend depuis 6h ce matin, bien sûr, avec Laurent Cabrol, se préparent à avoir extrêmement chaud, surtout mercredi et jeudi. Du coup, ça a été et c'est encore la ruée dans les magasins de ventilateurs.
Pour espérer garder un tout petit peu de frais à l'intérieur des maisons, car les températures vont effectivement grimper toute la semaine. On ne sera pas loin des 40 degrés à Lyon ou encore à Paris en milieu de semaine. Et là, on ne parle même pas des températures ressenties. Certains ont donc anticipé et ont investi dans des ventilos ou autres clims. Mais encore faut-il en trouver, Jean-Jacques Héry.
La France a peur. Peur de ce flux d'air chaud venu du Sahara et qui toute la semaine va faire monter les températures jusqu'à 40 degrés. Seule arme contre l'implacable canicule, le ventilateur. Tout le monde se l'arrache. Olivier le premier.
Ça me paraît un peu long de survivre sans air frais. Sincèrement, imaginez de vivre dans un appartement avec 40 degrés de chaleur ambiante, moi ça me fait peur, oui.
Les magasins sont dévalisés, Josiane en est à son deuxième, où il ne reste plus que deux modèles.
Chez Boulanger, ils sont dévalisés, on ne peut même pas commander des ventilateurs en pied, c'est fini. Darty, pareil ici, voilà, on n'a que ça comme choix.
Vous allez prendre quand même ?
Bah, il veut bien que je prenne quelque chose, sinon voilà, je vais crever.
Les climatiseurs aussi sont en rupture de stock, Joséphine se rend.
Je souffre dès qu'il fait chaud quand même. C'est pour ça que je regardais les prix, mais c'est quand même assez cher. Mais enfin là, quand il vient des chaleurs comme ça à Paris, c'est assez terrible. On ne peut pas dormir hein, la nuit. Alors maintenant, moi j'ai 80 ans, donc tout de suite en ville, c'est très pénible.
Au final, Joséphine ne devrait pas en commander, trop cher, alors que tout ça n'est l'affaire que de quelques jours, sourit-elle.
Enfin, au moins a priori, hein, jusqu'à vendredi, eh oui. C'était Jean-Jacques Héry pour Europe 1.
Manifestation réussie hier à Belfort en soutien aux salariés futurs licenciés probables de General Electric.
Ils sont près d'un millier, proches de perdre leur emploi. En effet, hier, 5000 personnes étaient mobilisées pour montrer la solidarité des syndicats au MEDEF local, tous unis pour l'emploi et l'avenir de toute une ville. Théo Manval.
Ils sont venus de tout le département, gilets jaunes, salariés de General Electric, élus avec leurs écharpes tricolores ou simplement Belfortins de toujours, comme Joël et Francis, pour la défense de leur territoire.
C'est très très important pour nous.
Pour les enfants, pour nos petits-enfants.
La suppression des emplois, on sait pertinemment que 1000, ça ne sera pas ça, ça sera nettement plus. Il y a aussi tous les sous-traitants et autres. Belfort deviendra une ville morte. Donc pour que notre ville vive, il faut se manifester.
Est-ce que vous êtes avec nous?
Au premier rang dans le cortège, le délégué sud Francis Fontana a le sourire.
Ça fait chaud. Hein. On a le soutien de tous les citoyens et c'est hyper important. On en appelle au chef de l'État. Il doit maintenant prendre la parole, faire pression sur General Electric.
Car le plan social est désormais lancé officiellement depuis vendredi, ajoutent les syndicats qui ne se font pas beaucoup d'illusions sur leur recours en justice examiné la semaine prochaine. Cyril Carité, représentant CGT.
De toute façon, le juridique ne suffira pas. Ils sont plus costauds que nous sur ce sujet. Il nous faudra, je veux dire, du rapport de force. Faire revenir par le biais des instances politiques, en disant qu'on ne faisait pas respecter les contrats.
Parce qu'il y a 3 ans, rappelle-t-il, General Electric promettait de créer 1000 emplois dans l'Hexagone, pas de les supprimer. À Belfort, Théo Manval, Europe 1.
Et dans le cortège aussi, des gilets jaunes pour l'acte 32 de la mobilisation et un regain de participation. 11 800 personnes ont défilé partout en France selon le ministère de l'Intérieur contre 7 000 la semaine dernière.
Dans un instant, nous parlons de la Turquie où l'on vote aujourd'hui. Le parti du président turc Erdogan pourrait perdre ce dimanche Istanbul au municipal.
Europe 1, il est 8h06. Reprise de l'info avec Lénaïk Monnier et Bernard Poiret.
Hypothèse. Et si le président turc Erdogan, ou au moins son parti, l'AKP, perdait les élections municipales d'Istanbul.
Qui remporte Istanbul remporte la Turquie, à l'habitude de dire Recep Erdogan. Mais pour le président turc, le vent pourrait tourner. À Istanbul, on vote ce matin, ou plutôt on vote à nouveau, 3 mois après un scrutin annulé. Ekrem İmamoğlu pourrait ravir la capitale historique et non pas administrative à l'AKP, le parti en place. Pour l'opposition au pouvoir, İmamoğlu représente un réel espoir. Reportage Guillaume Perrier.
Il est arrivé en bras de chemise, acclamé comme une rockstar. Pour son dernier meeting hier sur la place du Skudar, Ekrem İmamoğlu a jeté ses dernières forces dans la bataille. Une bataille décisive pour l'avenir de la Turquie, car c'est bien plus qu'une élection municipale qui se joue. Istanbul, c'est 16 millions d'habitants, 40% de l'économie turque et surtout un tremplin national parfait. Recep Tayyip Erdogan en sait quelque chose. En 1994, il avait été élu maire et avait déclaré « Qui conquiert Istanbul conquiert la Turquie ». C'est İmamoğlu qui incarne aujourd'hui les espoirs de changement, un espoir auquel veut croire Ekin Altı, venu assister au meeting.
Nous sommes encore dans la République démocratique de Turquie. Peut-être que Erdogan ne reconnaîtra pas sa défaite, mais ce n'est pas encore un royaume. Ce n'est pas l'Empire ottoman. Nous élirons notre maire. Si besoin, nous descendrons dans la rue, mais la démocratie va continuer. Nous ne voulons plus de la division entre Turcs et Kurdes, ni de ces humiliations contre les citoyens.
Les sondages promettent une large victoire. Victoire d'İmamoğlu plus large que le 31 mars, ce qui rendra les manipulations du pouvoir plus difficiles et qui pourrait ouvrir la voie à une alternance politique dans un pays gouverné depuis 17 ans par Erdogan. Istanbul, Guillaume Perrier, Europe 1.
Ah, en tout cas, si vous aimez le métal, comme on dit, ou au moins le hard rock, je sais que ce sont vos musiques préférées, les Naïcs, vous connaissez forcément le Hellfest de Clisson.
Le festival de l'enfer s'achève ce soir au beau milieu des vignobles nantais, des fans de métal, effectivement. 60 000 festivaliers se sont pressés pour voir Kiss, Def Leppard ou encore ZZ Top. Reportage de Pierre-Baptiste Vanzini au cœur de ce festival, à l'univers totalement à part.
Énorme, des scènes partout, une déco à la Mad Max, le show, c'est à chaque instant, même les festivaliers s'y mettent comme ce barbare Conan avec sa peau de bête en plein soleil, même pas mal.
Si, j'ai chaud, mais quand le soir est venu, je suis très content avec ma peau de bête sur moi.
Alors la question qu'on peut poser aux barbares, c'est pourquoi fait-il ça?
On dit bonjour aux gens, on s'amuse, tu tapes dans l'épaule du gars, tu lui fais un petit signalfest. C'est bien. Et puis au concert, tu t'amuses aussi. N'étais pas là pour faire chier les autres.
Émilie, venue de Lyon, elle découvre l'ambiance. Elle arbitre un match de rugby improvisé en micro-brassière noire.
J'ai pas les mots, c'est trop bien. La musique, l'ambiance, les gens, le respect en fait. Je suis à moitié à poil, sinon je serais pas habillée comme ça. Y a pas de jugement, c'est très bien.
Émilie est designer, Conan fonctionnaire, Fred un informaticien qui a si elle feste au compteur, en a vu d'autres.
J'ai croisé des banquiers, j'ai croisé des avocats, Donc c'est rigolo, on se dit dans la vie, ils sont forcément pas comme ça, quoi. Donc tout le monde a besoin d'un endroit pour se mettre à l'aise, quoi. On peut venir déguiser en licorne, c'est pareil, quoi. On voit pas beaucoup de t-shirts de rap ou de Justin Bieber, mais il pourrait venir pareil, ce serait rigolo.
Voilà, Justin Bieber au Hellfest, ça donne une bonne idée de l'ouverture d'esprit ici. Clisson, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe.
Et ce sont les Californiens du groupe Slayer et leur barbe touffue qui vont conclure cette édition 2019.
Et j'en profite pour saluer mon amie Valérie Quintin qui, très religieusement, va chaque année au Hellfest de Clisson. Elle y est actuellement. Elle doit cuver, j'imagine, de sa soirée. Je ne pense pas qu'elle nous écoute, mais enfin, on ne sait jamais.
Et à 8h11, c'est votre journal des sports avec les Naïcs Monnier.
Mais les Naïcs France-Brésil, ce sont les huitièmes de finale du Mondial de foot féminin. C'est ce soir au Havre.
Et c'est une affiche qui fait envie. Les matchs de poule sont enfin terminés. Les Bleus entrent dans le vif du sujet. Le Brésil est un sacré morceau. La Seleção a terminé deux fois deuxième au JO et compte parmi ses rangs Marta, meilleure buteuse de tous les temps, tous genres confondus. N'empêche que pour Corinne Diacre, ce match n'est rien de plus qu'une étape. Ses filles sont prêtes.
On travaille sur tous les adversaires déjà depuis le tirage au sort, donc le 8 décembre. Donc vous imaginez bien que des rapports, des montages, on en a plein sur toutes les équipes de la Coupe du Monde. Donc voilà, on a ressorti le dossier Brésil et ça nous a posé aucun problème. Voilà, on avait anticipé beaucoup de choses. J'avais également des observateurs sur tous les matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, on a rajouté des images, conforté ou non nos dossiers. Donc pour nous, ça ne nous a pas changé grand-chose. Dès jeudi matin, on était opérationnel.
Corinne Diacre, concentrée avec Julien Froment. France-Brésil, c'est à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1, prise d'antenne à 20h.
Mais avant cela, au Castellet, dans le Var, on va suivre le Grand Prix de France de Formule 1.
Avec Lewis Hamilton qui va partir en pôle devant Bottas, son partenaire chez Mercedes. Côté français, c'est la déception pour Pierre Gasly, 9e sur la grille. Pire encore pour Romain Grosjean, triste 17e.
C'est chouette de venir ici, après c'est un week-end chargé avec beaucoup d'obligations à droite à gauche, donc c'est pas facile, après la voiture elle demande beaucoup de travail aussi, donc voilà, je pense qu'il faut qu'on comprenne, on a beaucoup blâmé les pneus sur le début de saison, il fait 58 degrés au sol et seul Paul Ricard a énormément de virages rapides, on n'arrive pas à aller plus vite, donc je pense qu'il faut qu'on travaille, qu'on essaie de comprendre, qu'on analyse, parce que là on a un petit peu raté la course au développement et je pense qu'on est tombé derrière.
Romain Grosjean avec Axel Metz, départ de la course à 15h10.
Et le speaker de cette course de Formule 1 au Castellet, ce sera notre ami Philippe Vandel, imaginez-vous, qui donc du coup ne peut pas assurer ce soir son émission sur Europe 1, c'est François Clauss qui le remplace.
D'un mot également, le rugby avec ce coup de chapeau au moins de 20 ans, les Français ont conservé leur titre mondial, victoire à l'arraché 24-23 face à l'Australie.
À l'arraché peut-être, mais superbe victoire quand même. Magnifique. Merci beaucoup les Naïcs Monnier. Elle revient tout à l'heure dans moins d'une demi-heure pour le spécial journal du football et du mondial. À tout de suite, à 8h30.